Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard le 1er mars 1988.
Si la contemplation de l'être premier implique dans un premier temps une découverte intellectuelle, sens affective, y a-t-il pour autant une relation personnelle d'amitié entre l'être premier et le philosophe? Relation réciproque. Cet être premier est-il découvert et contemplé comme père? C'est une question très difficile qu'on ne peut pas traiter ici, qui a été très discutée. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a l'adoration. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a une amitié. Il ne faut pas confondre l'ordre naturel, l'ordre surnaturel. Alors, si la contemplation de l'être premier implique dans un premier temps une découverte intellectuelle et dans un second une connaissance affective, je ne dirais pas tout à fait comme ça. Parce que la connaissance affective est antérieure. C'est à l'intérieur de l'appétit qu'il y a cette découverte. Ben, parce que ce n'est pas une pure connaissance intellectuelle. C'est le très grand amour de la vérité qui me permet de découvrir l'être premier. S'il n'y a pas ce très grand amour de la vérité, mon intelligence, comme un vieil âne, s'arrêtera en disant que c'est trop difficile. Il faut un thumos, une très grande ardeur et un très grand amour de la vérité pour ce dernier dépassement, qui est le dépassement ultime de l'intelligence, pour découvrir l'être premier. De sorte que je ne mettrai pas assez de temps comme ça. Je mettrai l'appétit profond de la vérité, de l'épanouissement plénier de la recherche de la vérité. Et d'aimer, vers lequel je tends à m'offrir totalement. Voyez, le problème de la réciprocité ne se pose pas, je crois. La créature, quand elle découvre Dieu dans une telle transcendance, J'ai pas de voix ce matin. Je crois que c'est la neige. Vous avez raison. Depuis le début, vous n'avez rien entendu. Ah, ça cause ça. Oui, puis vous n'entendez rien parce que je garde le silence. La première noblesse de l'intelligence, c'est l'acquisition de la nature comme principe. Et à ce moment-là, j'acquiers cette première noblesse de l'intelligence au niveau philosophie de la nature. Puis, l'habitus de la philosophie du vivant. Puis, de la philosophie première. Oui. Il y a trois habitus qu'on acquiert, qui est comme la base de ce que représente cette habitus de sagesse. Et ce que je veux dire, c'est que beaucoup peuvent uniquement acquérir ces trois habitus philosophiques sans acquérir la sagesse. C'est pas parce que vous prenez le train au niveau philosophie de la nature que nécessairement vous aboutissez à la sagesse. Est-ce que celui-ci est premier? L'habitus d'éthique, l'habitus de la philosophie de l'art. Est-ce que c'est celui-là qui est premier? Est-ce que c'est l'éthique second? Et puis l'habitus, s'il y en a un de philosophie politique. Je crois personnellement que on acquiert des disposition assez vite, je dis disposition, pas l'habitus parfait, au niveau de l'éthique, de la philosophie de l'art et la politique, et c'est suffisant. Puis on acquiert les habitus spéculatifs, on acquiert la sagesse, et grâce à la sagesse, on peut revenir à l'éthique. Je crois que l'habitus d'éthique, comme habitus, s'acquiert en dernier lieu. Aristote fait cette remarque que il faut du temps. Les jeunes ont beaucoup de peine d'acquérir l'habitus philosophique d'éthique parce qu'il faut beaucoup d'expérience. Alors, c'est un problème auquel il faut mettre un point d'interrogation. Ce serait intéressant de se poser la question au plan génétique. Ce qui est sûr, c'est que vous avez au moins 5 habitus philosophiques, plus la sagesse. Parce que la politique, je ne suis pas sûr. De la disposition. Je ne crois pas qu'on puisse acquérir un habitus de philosophie politique. Je crois que ça reste de la disposition. Bon. Ensuite, mettez parallèlement à cela l'habitus des mathématiques. Une qualité de l'intelligence très particulière. C'est dans un point de vue spécial. les lignes, des mathématiques, toutes les sciences qui sont dépendantes des mathématiques pour acquérir le point de vue de l'habitus. Vous voyez, la physique, même la biologie, c'est cette noblesse d'une intelligence qui s'organise. Alors, que représente ces habitus scientifiques et mathématiques? C'est une qualité à l'intérieur de l'intelligence qui mobilise toutes les virtualités de l'intelligence en vue d'une vérité particulière. La vérité au niveau de ces différentes parties de la philosophie, la vérité au niveau des mathématiques, la vérité au niveau de toutes les sciences qui dépendent des mathématiques. Oui, c'est là où il faudrait bien comprendre les degrés du savoir. Je vous renvoie au livre de Maritain, les degrés du savoir qu'il faudrait reprendre, parce que c'est pas tout à fait au point. Mais c'est intéressant quand même. Avant de critiquer ça, il faut d'abord un peu voir ce que c'est. Mais c'est intéressant de voir tous ces habitus qui viennent organiser de l'intérieur l'intelligence. Les habitus acquis sont des qualités, alors que les méthodes scientifiques ne sont pas des qualités. C'est extrinsèque. Différence entre un habitus et une méthode. Les méthodes, c'est quelque chose d'extérieur, tandis que l'habitus, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, orienter l'intelligence vers son appui propre, et qui fait qu'à partir de là, l'intelligence a une souplesse, une pénétration, une facilité pour atteindre ce qui est son bien. Et c'est dans ce sens-là qu'on voit bien que la qualité vient, l'habitus comme qualité, vient perfectionner de l'intérieur l'intelligence, l'esprit. En plus de ces qualités intellectuelles, il faut montrer l'habitus. Les habitus vertus. Les habitus vertus. Au sommet, c'est la prudence. La prudence, c'est la sagesse pratique. C'est une certaine sagesse, la prudence. Mais sagesse pratique. Le propre du sage, c'est d'ordonner. Il y a l'ordre de contemplation, l'ordre de sagesse contemplative et l'ordre de sagesse pratique. Et l'ordre de sagesse pratique, c'est d'ordonner toutes nos capacités en vue de notre action morale. Donc la prudence, c'est une qualité. Une vertu acquise. Ça s'acquiert, la prudence, durant toute notre vie. Pour jamais dire qu'on est assez prudent. Comme on peut jamais dire qu'on est assez sage. Les habitus de philosophie ne cessent de s'acquérir. Ils ne vieillissent jamais. L'habitus mathématique. Alors là, c'est plus particulier. Est-ce que l'habitus mathématique se perfectionne toujours? Je crois, chez quelqu'un qui exerce tout le temps les mathématiques. Je ne sais pas s'il y a une croissance infinie, je ne crois pas. Tandis que dans l'habitus de sagesse, il y a une croissance infinie. Et dans la sagesse pratique, il y a aussi une croissance. sans avis. Je peux être toujours plus prudent. En plus de la prudence, il y a les autres vertus morales. Alors c'est toutes les vertus morales qui viennent perfectionner l'intelligence, la volonté, la justice, qualité de la volonté. Perfectionner la volonté, notre appétit spirituel, la force et la tempérance, les quatre vertus cardinales, prudence, justice, force, tempérance, c'est les qualités qui viennent perfectionner l'intelligence pratique. Disposition naturelle. certaines personnes humaines qui auront une peine énorme d'acquérir la prudence. Jusqu'à la fin de leur vie, elles seront imprudentes. Ça se voit. Il faut s'en apercevoir. On a des passions trop développées. Et les passions trop développées font que vous avez une peine énorme de pouvoir dépasser cette affectivité passionnelle. Et alors vous êtes emballé. Vous emballez pour des choses secondaires. Or, le propre de la prudence, c'est toujours d'ordonner le secondaire vers le principal. Alors, il y a des dispositions naturelles. Certains êtres seront presque toute leur vie passionnés d'une façon exagérée. des habitus nécessaires à l'acquisition de la sagesse. Mais la sagesse couronne tous ces habitus. Elle vient au-dessus. Alors quand je dis nécessaire, ce n'est pas de la même nécessité. Les habitus philosophiques et les habitus de prudence, c'est pas de la même nécessité. Alors, c'est une nécessité immédiate, pas immédiate. Donc, à la rigueur, il peut se faire que quelqu'un ait la sagesse philosophique ayant certaines fragilités du côté prudence, du côté tempérance, du côté force. Ça peut se faire. On a tous rencontré des gens qui avaient une sagesse philosophique et qui, au point de vue moral, voyez, ils aimaient l'alcool. Tout de suite avec des 10 réciprocité affective est à l'habitus. Ou n'est-elle qu'une disposition? Alors, je crois que ce qu'on peut dire, je laisserai la question. Il faut quelquefois laisser des questions pendantes. Je dirais que l'amour d'amitié les vertus. C'est même souvent par l'amour d'amitié que je suis le plus éveillé pour acquérir la prudence, la justice, la force et la tempérance. Parce que c'est évident que quand les passions de l'irascible et du concupiscible sont trop fortes, elles deviennent rivales de l'amitié. Et elles tuent l'amitié. En état d'ébullition depuis le matin jusqu'au soir. C'est trop fatigant. Tout le temps. S'il avait une hache dans sa poche, il taperait dessus. Alors quand même, hein, l'instinct de conservation. Sinon, non, c'est trop fatigant. Ou bien quelqu'un dont le concupiscible est tellement développé qu'il éprouve une sangsue. Pas l'impression. La miséricorde divine, alors, fait des choses merveilleuses, mais l'amitié proprement dite, c'est impossible. Il y a un soubassement vertueux nécessaire à l'amour d'amitié. Et très souvent, c'est l'amour d'amitié qui me fera comprendre la nécessité de ces vertus. Alors, c'est...